France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Si vous regardez dans les yeux un chat, un poulpe, un iguane, un toucan ou une mouche, vous ne pouvez être qu'étonné par l'extraordinaire variété de formes et d'architectures oculaires. Mais quelle a été l'histoire de l'œil ? Face à cet inventaire, Darwin était perplexe. Pour lui, c'était une énigme. Comment expliquer une telle diversité biologique pour un organe si élaboré ? Comment comprendre cette différenciation au cours de l'évolution du vivant ? Aujourd'hui, on sait que l'œil est apparu lors de l'explosion cambrienne, il y a environ 542 millions d'années, période que l'on qualifie aussi de Big Bang du vivant, et que la vision s'est d'abord développée sous l'eau, dans les profondeurs océaniques. Mais comment retracer cette histoire de l'œil puisqu'il est impossible de retrouver un fossile de tissu souple comme le cristallin. Évolution, histoire de l'œil. Didier Cassane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de biologie évolutive à l'Université Paris Cité et co-directeur d'une équipe à l'Institut Diversité, Écologie, Évolution du Vivant.
Exactement.
Merci à vous d'être avec nous. Bonjour Hervé Le Guyader.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire de biologie évolutive à Sorbonne Université. Et merci à vous aussi d'être à nos côtés.
Je vous en prie.
Un grand merci à celles et ceux qui nous écoutent en direct, comme maintenant, ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France, sur franceculture.fr. Vous pouvez également suivre cette émission, nous suivons sur Blue Sky, sur notre compte @scqfd. Alors combien de temps a-t-il fallu pour voir émerger, sans mauvais jeu de mots, l'apparition d'un œil complexe ? Quelles sont les théories paléontologiques qui éclairent cette histoire ? Et que comprend-on de la vision chez les autres espèces ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Hervé Le Guyader, comment Darwin regardait-il cette immense variété de couleurs, de formes dans le monde vivant ? Quel regard posait-il dessus ?
Ah, il avait un gros problème. Il avait un gros problème, surtout que, si vous voulez, pour remplacer les choses, à l'époque de Darwin, quand Darwin a commencé à étudier, il y avait un livre qui était très célèbre, qui était donc la théologie naturelle de William Paley, et qu'il dit bien dans son autobiographie qu'il avait beaucoup aimé ce livre, et William Paley raconte la création du monde à partir du divin, avec donc plein de petits anges qui travaillent. Et donc, à chaque fois, lui, il veut aller contre ça à un moment donné, mais au départ, il le suivait. Mais pour l'œil, il voyait pas. Il dit, c'est magnifique, il y a pas d'erreur. Donc, pour lui, c'était une grosse difficulté vis-à-vis de la théorie de l'évolution.
Didier Cassane, comment justement Darwin abordait-il cette question ?
Eh bien, bon, comme a dit Hervé, ça posait un problème donc de cette question de la complexité. C'est-à-dire que ce qui paraissait impossible, ce que disait Paley, si vous trouvez par exemple une montre sur le sol, vous n'allez pas dire qu'elle est apparue spontanément sur le sol, mais qu'il y a quelqu'un qui l'a perdue et quelqu'un qui l'a construit surtout. Voilà. Donc l'œil, c'est pareil, c'est une structure très complexe. En tout cas, on pourra revenir sur la définition de l'œil, hein, mais si on prend l'œil d'un vertébré, par exemple, c'est effectivement... Darwin le dit, hein, c'est assez extraordinaire parce que il y a un appareil, une lentille qui focalise la lumière. Ensuite, il y a toute une correction des aberrations chromatiques et sphériques. Ensuite, on va faire des ajustements de la forme pour bien focaliser sur la rétine. Tout ça, des petits muscles qui font bouger l'œil, un iris qui s'ouvre et qui se ferme pour faire très juste la quantité de lumière adéquate. Tout ça, ça paraît extrêmement complexe. Et l'idée aussi, c'est que un œil qui serait à moitié ça, ça marcherait pas. Voilà, un œil sans cristallin ou un œil sans rétine, ça sert à rien. Donc il faut tout d'un coup ou rien d'un coup. Et justement, la biologie évolutive, et ce que Darwin commence à dire dans son livre aussi, c'est qu'en comparant avec des espèces qui ont peut-être des œils plus simples, on va pouvoir essayer de reconstruire comment, pas à pas, à part d'une structure très simple, en fait, on pourra en discuter après, hein. Mais l'œil, le plus simple qu'on peut imaginer, c'est deux cellules, une cellule photoréceptrice, une cellule écran, et à partir de ça, on peut, étape par étape, arriver à la construction d'un œil complexe. Et donc, c'est compatible avec la théorie de l'évolution.
Eh bien, on va parler évidemment de ces étapes telles que les chercheurs, la science aujourd'hui la comprend. Mais d'abord, un œil, ça peut ressembler donc à beaucoup de choses. Il faut élucider une question. Qu'est-ce qu'un œil ?
Nous allons voir rapidement comment l'appareil visuel s'est perfectionné dans la série animale. Pour cette étude, la France possède un maître incomparable, le docteur Rochon Duvigneau, dont les travaux d'anatomie comparée sont universellement appréciés. Tandis que les vertébrés possèdent des yeux bâtis tous sur le même modèle, les animaux sans vertèbres ont des organes récepteurs tellement divers que seule une même qualité spécifique, la sensibilité localisée à la lumière, permet de leur donner le même nom. Beaucoup d'êtres vivants réagissent à la lumière sans avoir d'yeux à proprement parler. Ainsi, chez les plantes, les tournesols qui s'orientent vers le soleil. Un phototropisme positif ou négatif, c'est-à-dire le fait qu'un organisme va vers la lumière ou la fuit, existe même chez les bêtes les plus rudimentaires, comme Paul Bert le démontra dès 1869 sur les puces d'eau douce qu'on appelle daphnies. Mais il n'y a vraiment œil que lorsque certaines cellules se spécialisent dans la fonction de récepteurs lumineux. Dans les cas les moins perfectionnés, ces cellules sont réparties un peu partout dans la peau. Chez le ver de terre, par exemple, Hess a décrit en 1895 des milliers de cellules particulières prolongées vers l'intérieur par une fibre nerveuse et qui semblent bien des organes élémentaires du sens lumineux. Ces cellules sont surtout abondantes vers les deux extrémités du corps, ce qui permet au ver de voir, si l'on peut dire, par devant et par derrière.
Voilà un extrait de l'émission L'heure de culture française diffusée sur la RDF en 1950. Votre réaction à l'écoute de cette archive, Didier Cassane ?
Oui, le ver qui... Je suis un peu étonné par le ver qui voit par devant et par derrière, mais je pense qu'il est sensible à la lumière et en fait, ce qu'il va essayer, c'est d'échapper. En fait, ça, c'est peut-être on n'est pas encore à l'étape d'un œil, c'est-à-dire que des cellules photosensibles existent dans bien au-delà des animaux. Mais on n'est pas là, on est juste au niveau de la détection de la lumière. Et souvent, c'est suffisant pour beaucoup d'animaux qui, par exemple, veulent fuir la lumière. Par exemple, un ver de terre, dès qu'on le sort de la terre, il va chercher à fuir, à s'enterrer. Donc, détecter qu'il y a de la lumière ou pas, c'est suffisant. Mais il ne construit pas une image et il n'a pas d'idée des variations lumineuses dans l'environnement. Un œil, la définition introduit de la capacité à détecter de la lumière et aussi sa distribution spatiale, c'est-à-dire savoir s'il y a plus de lumière ici ou ailleurs et avec différentes longueurs d'onde, etc. Donc ça devient un œil. Donc, je dirais pas, en général, on ne dit pas que le ver de terre a un œil.
Parce que sinon, en effet, sinon ce serait quelque chose. Enfin, cette définition de l'œil, elle pourrait exister chez tous les animaux pratiquement. Donc ouais. En fait, ce qui compte, c'est cette proportion à fabriquer une image finalement, Hervé Le Guyader.
Alors justement, pour continuer sur ce que dit Didier, je crois qu'il faut faire tout de suite la différence entre un œil et un organe photorécepteur. Comme ce que Didier disait tout à l'heure, un organe photorécepteur, vous avez une réception lumineuse, vous avez une réaction, mais vous n'avez pas forcément formation d'une image, par exemple. On peut dire qu'on peut appeler œil à partir du moment où l'œil est suffisamment l'organe est suffisamment construit pour avoir une rétine ou des rétines, enfin, avec possibilité d'une image et possibilité de traitement par un système nerveux central. Et à ce moment-là, si vous voulez, on peut dire que l'œil est un organe photorécepteur extrêmement évolué. Mais c'est quelque chose qui va nous être important tout à l'heure quand on va obligatoirement parler d'homologie. Et donc, homologie de l'œil, homologie d'organes récepteurs, c'est pas du tout la même chose.
Alors, faut faire une petite anatomie des trois grandes architectures d'un œil, hein, cet organe photorécepteur extrêmement évolué. On distingue généralement trois grands types de mécanismes, Didier Cassane.
Oui, alors je sais pas, on peut peut-être le présenter en essayant de reconstruire comment s'est construit, par exemple, l'œil simple, ce qu'on appelle l'œil simple, qui est quand même très complexe, l'œil des vertébrés, par exemple, et qu'on trouve, on reviendra sur ce terme-là, un œil analogue chez les poulpes, etc., et les seiches et calmars. Donc, en fait, l'œil, nos yeux, par exemple, chez les vertébrés, eh bien, ça va être d'abord... Donc c'est une forme sphérique. Donc au fond de l'œil, il y a les récepteurs, ce sont les cellules de la rétine. Donc qui elles contiennent les molécules qui sont capables d'absorber les photons et donc de détecter s'il y a de la lumière. Bon, ça, si on a juste une rétine comme ça, par exemple une rétine plate, hein, que quelques cellules, bien ça ne permet pas, ça permet juste de dire qu'il y a de la lumière qui arrive en face, mais ça ne permet pas de faire une image. Donc pour faire une image, une solution, c'est d'avoir une forme donc concave, d'accord, notre œil, voilà. Et s'il y a que cette forme concave, il y a des yeux comme ça, hein, sans cristallin. Alors on peut former une image un peu floue, hein, pas très précise, parce que si vous imaginez une forme concave comme une coupe avec un petit trou en haut, la lumière qui rentre par exemple par la droite, elle va taper sur les récepteurs qui sont à gauche. Et la lumière qui rentre par la gauche va tomber sur les récepteurs de la droite. Donc vous voyez, on peut voir la direction de la lumière et l'intensité de la lumière dans différentes directions. Donc ça donne une première image. Donc, par exemple, ce qui est connu, c'est les nautiles, qui ont un œil assez gros, hein, ça fait environ un centimètre, et c'est aussi simple que ça. C'est un petit trou par lequel rentre de la lumière. Mais ça, ça a une limite, parce que si on veut avoir une image très précise avec ce système-là, il faut faire un trou tout petit. Plus il est petit, et plus on va faire une image détaillée. Si vous avez un gros trou, évidemment, il y a peu d'ombrage, et l'œil donne une image très floue. Donc là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un compromis évolutif, c'est faire un œil qui peut absorber beaucoup de lumière, mais qui va donner une image floue, ou un œil qui, avec un tout petit trou, qui va donner une image précise, mais qui va demander beaucoup de lumière pour pouvoir fonctionner. Donc là, voilà, ça dépend du mode de vie des animaux. Alors, pour résoudre ce problème-là, pour dépasser ce compromis, on peut faire une ouverture grande et mettre une lentille. Et donc, si on a une lentille, c'est notre œil, hein. Donc, on a cet œil sphérique avec un trou pas très grand, mais quand même assez grand pour faire entrer beaucoup de lumière. Et pour avoir une image précise, il faut avoir une lentille qui va focaliser toute la lumière qui vient dans une direction sur un point réduit de la rétine. Donc, on a en même temps une grande sensibilité avec une lentille et la capacité d'avoir une image avec une grande résolution.
Oui, pardon, je vous remercie de nous faire visualiser voilà, très précisément si toutes nos illustrations.
Et donc ça, on a des animaux qui ont un peu tous les stades intermédiaires, en fait, qui ont juste une rétine avec un trou, avec un cristallin, et voir ensuite, comme nous, un iris qui va permettre de contrôler la quantité de lumière qui rentre, et plein de petits perfectionnements supplémentaires, et pour avoir une vision très bonne. Les vertébrés, ce sont les animaux qui ont le même meilleur système visuel, la meilleure résolution d'image. Et une grande sensibilité. L'autre modèle d'œil, c'est l'inverse. C'est faire une forme convexe. C'est l'œil des mouches, par exemple. Vous voyez toutes ces petites facettes. Vous voyez un dôme avec ces petites facettes. En fait, chaque facette, elles sont orientées différemment par rapport à la lumière. Elles sont toutes orientées un peu différemment. Et en fait, c'est le haut d'un tube. Ce tube, il est opaque. Et donc, et à l'intérieur, il y a des cellules photosensibles, l'équivalent des cellules de notre rétine. Et donc, toute la lumière qui vient d'une direction vont rentrer que dans une facette. Et donc, ne vont être détectées que par les cellules. Donc, la lumière qui vient de gauche, cette fois-ci, au lieu de taper à droite, elle va taper à gauche. Et donc, ça va faire une image qui n'est pas inversée comme sur notre rétine. Et ça permet donc, chaque facette, finalement, on découpe un morceau de la direction de l'espace, hein, et permet donc de différencier les quantités de lumière et éventuellement les longueurs d'onde différentes qui viennent de différentes directions. Donc ça, c'est la deuxième architecture qui est chez les arthropodes, et donc crustacés, insectes, trilobites dans le passé, qui ont disparu. Donc ça, c'est les deux grandes architectures les plus complexes.
Vous venez d'évoquer la mouche. Ça ne veut pas dire que la mouche, comme on peut le voir dans certains films, voit en facette de centaines de fois une image. Vous savez, il y a cette représentation.
Ah oui, on peut casser ce mythe, effectivement. Parce que pour les facettes, chaque facette, en haut, il y a un petit cristallin. Ça, c'est pour focaliser la lumière et maximiser la lumière qui arrive sur les photorécepteurs. Mais les photorécepteurs de chaque tube qu'on appelle une ommatidie, voilà, chaque petit tube comme ça ne va pas former une image. Il va juste détecter qu'il y a une quantité de lumière qui vient d'une certaine direction. Mais le petit cristallin, quand même, permet de faire une image. Mais cette image, en fait, n'est pas exploitée. D'accord. Mais en fait, nous, si on le regarde, on pourrait voir ces petites images reproduites dans chaque structure.
Alors, à quelle époque l'œil est-il apparu dans l'histoire du vivant? Quelles sont les grandes étapes de son développement? On continue de vous faire les yeux doux.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Didier Cassane et Hervé Le Guyader. Nous parlons de l'œil. On vient de voir ce qu'on appelle finalement un œil, de décrire ces deux grandes architectures. L'œil camérulaire, un œil simple, ou l'œil composé, celui des yeux composés, des mouches. On vient donc de dresser un inventaire de ces différentes architectures. Hervé Le Guyader, finalement, comment ça fonctionne ?
Alors,
on a le niveau cellulaire qu'on a également abordé ensemble, et puis il faut peut-être descendre un peu plus sous l'échelle cellulaire et se pencher sur les protéines.
Alors, juste un point pour continuer sur ce que disait Didier. L'œil à lentille, on va le trouver chez les vertébrés, mais on va le trouver chez les méduses, les cuboméduses, on a les yeux à lentille. On va le trouver chez les mollusques, pas seulement chez les céphalopodes, mais aussi chez les lamellibranches, comme par exemple chez la coquille Saint-Jacques, qui a toute une série d'yeux tout autour sur son manteau quand il ouvre ses valves. Il a plein d'yeux avec des lentilles.
200 yeux,
donc,
la coquille Saint-Jacques.
Et
des yeux bleus,
bleus
des coquilles Saint-Jacques.
Oui, à tel point qu'une fois, point de vue anecdotique, j'avais montré à ma famille un œil de coquille Saint-Jacques sous la loupe binoculaire, et après avoir vu l'œil sous la loupe binoculaire, il y avait certains qui ne voulaient plus manger de coquille Saint-Jacques. Bon, et donc, ça veut dire que, si vous voulez, là, au point de vue évolutif, on comprend bien que toutes ces lentilles sont arrivées indépendamment. Mais par contre, quand on parle de l'organe photorécepteur, là, on va avoir quelque chose qui va être extraordinairement important. Parce que, un, la protéine qui va capter la lumière, l'opsine, eh bien, on va la trouver partout. Et le produit du gène qui va structurer au cours du développement, qui va structurer l'organe photorécepteur ou l'œil, eh bien, c'est exactement le même aussi. Un gène qu'on va appeler Pax6, on y reviendra, je suppose, par la suite. Et donc, vous voyez qu'en fait, si vous voulez, ce que je veux faire passer, c'est le problème important de l'homologie. C'est-à-dire que c'est hérité d'un ancêtre commun. C'est, j'allais dire, une espèce de cassette avec, entre autres, principalement, une protéine photoréceptrice et un gène maître qui va construire les choses. Et à partir de cela, eh bien, on va faire pas mal de choses. Mais on peut avoir des yeux à lentilles de manière différente parce qu'on va appeler convergence. Est-ce que j'ai été clair ?
Ah oui, très bien. Bon, on va commencer, continuer à approfondir cette histoire-là. Parce que, comme je le disais dans mon introduction, on sait donc que l'œil est apparu lors de l'explosion cambrienne. On est vers 542 millions d'années. On sait que la sensibilité à la lumière, hein, tout ce qui est phototactisme, existait depuis très longtemps chez les bactéries. Comment l'œil de vertébré a-t-il pu émerger à partir de cellules photosensibles, Didier Cassane ?
Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut regarder l'œil à différents niveaux d'organisation. C'est-à-dire, on peut parler de la structure macroscopique, hein, qui permet de voir. Et ça, effectivement, Darwin et ses contemporains avaient du mal à imaginer comment l'œil avait pu apparaître au niveau macroscopique. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il a apparu de très nombreuses fois, des dizaines de fois. Donc, il semble que ça soit finalement la chose relativement facile à faire. Par contre, les cellules photosensibles, les cellules qui contiennent les opsines et qui permettent donc d'absorber un photon, ce sont des neurones, toutes ces cellules, et ensuite elles sont capables de transmettre, à partir de l'absorption de ce photon, de transmettre un message, ce qu'on appelle la transduction du signal, à travers un axone, un prolongement du neurone qui va connecter avec d'autres neurones jusqu'au cerveau, ou des fibres musculaires, ça dépend du type d'organisme. Donc ça, par contre, actuellement, on a deux types cellulaires. Ça veut dire que c'est apparu chez l'ancêtre des animaux après la séparation des éponges, parce qu'apparemment, les éponges n'ont pas d'opsine, pas de neurones, etc. Rien d'équivalent. Elles peuvent être sensibles à la lumière, hein, mais c'est par d'autres molécules. Donc apparemment, c'est un peu à ce moment-là que s'est formé deux types cellulaires chez l'ancêtre de ce qu'on appelle les bilatériens plus cnidaires, hein, donc voilà, les méduses, etc. Et ces deux types, ils se sont beaucoup diversifiés. Si vous regardez les cellules en détail, elles sont quand même avec des formes différentes. Il y a des adaptations en fonction des environnements, mais c'est deux grandes familles. Et ensuite, si vous regardez au niveau du détecteur, vraiment au niveau moléculaire, c'est-à-dire dans ces cellules, au niveau de leur membrane, il y a donc les opsines dont a parlé Hervé. Et ça, cette opsine, elle, il n'y en a qu'une, en fait. Elle s'est multipliée en versions parce que les gènes se dupliquent et permettent de faire... coder des protéines différentes, et en particulier, c'est important pour la vision de la couleur. Mais ça, en fait, il semble qu'inventer le récepteur moléculaire, c'était ça la grande difficulté. Et ça, c'est arrivé qu'une fois. On ne voit pas que ça a été remplacé au cours du temps par d'autres molécules. Ou peut-être qu'il y a des exceptions, parce que dans le vivant, comme il y a des millions d'espèces, on trouve toujours un contre-exemple. Hein. Mais à ma connaissance, essentiellement, les photorécepteurs, ils contiennent toujours la même molécule. Donc vous voyez, en fait, ça s'est inversé, la notion de complexité. Finalement, c'est que complexe, c'est l'outil de base moléculaire. Mais ensuite, faire des structures, finalement, qui correspondent à des contraintes physiques, finalement, c'est quoi ? C'est faire converger de la lumière qui vient d'une direction sur une cellule, au mieux, pour avoir la résolution maximum. Pour faire ça, il n'y a que deux méthodes, c'est avoir une lentille ou un miroir. J'aime bien quand même l'exemple, je reviens sur la coquille Saint-Jacques, en fait, elle a effectivement une petite lentille, mais qui converge, qui fait pas trop converger la lumière. Elle a ensuite sa rétine, et sous la rétine, en fait, elle a un miroir, qui réfléchit la lumière et qui, elle, va focaliser la lumière sur la rétine. Alors, c'est un système rare, pas très efficace, mais ça permet quand même aux coquilles Saint-Jacques de s'échapper quand un prédateur s'approche.
En tout cas, pour résumer ce que vous dites, au départ, selon Darwin, le souci était architectural. Aujourd'hui, l'énigme, Hervé Le Guyader, l'énigme est, on peut dire, moléculaire ?
Va-t-on dire que c'est une énigme maintenant ? C'est-à-dire que, si vous voulez, je crois qu'il faut dire qu'à partir de la découverte d'une part des opsines, enfin ce que vient de dire Didier, que c'est au grosso modo, entre guillemets, la même opsine, même s'il y a plein de petites choses qui vont changer, mais que l'on va trouver dans tout le monde animal, sauf donc les éponges, et... Ça, ça a été découvert, disons, assez vite au 20e, mais après la découverte de Pax VI, ça va être une révolution complète. Parce que là encore, ça montre bien que, eh bien, il y a une invention qui a été faite de ce gène maître, et puis après, on a, entre guillemets, ce qu'il faut pour pouvoir pianoter et faire toutes les variabilités nécessaires.
Alors je pense qu'il faut tout de suite peut-être éclairer hein, ce qu'est cette découverte qui est en effet une révolution faite par Walter Gehring, un biologiste suisse, qui découvre ça avec ses équipes en 1994. Pax VI, c'est ce point clé, c'est la découverte du gène maître.
C'est avant. Hein.
C'est avant ? Ah ok, excusez-moi de...
Oui, c'est les années 80, début des années 80.
D'accord.
Milieu des années 80, le papier de Gehring, je ne me souviens plus la date, mais c'est...
Ok, merci de corriger
cette... Non, mais il a fait des papiers en 94, mais disons que c'était... Alors, en fait, si vous voulez, ce qui se passait, c'était qu'à l'époque, au point de vue génétique classique... On connaissait chez différents animaux des mutations où il y avait soit des privations d'œil, soit des yeux qui étaient mal construits. Alors, on les appelait chez la drosophile « eyeless », c'est-à-dire « sans yeux ». Chez la souris, c'était « small eye », « petit œil ». Chez l'homme, c'était « aniridia », pas d'iris. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... C'est le début de la biologie moléculaire forte, disons. Au moment où on peut aller chercher les yeux, on trouve ce gène Pax VI. Si on va chercher ailleurs, et on trouve que c'est la même chose, que c'est le même gène homologue. Ce qui est complètement fou, à tel point que Gehring va réussir à faire une manip assez colossale. Il va réussir à faire s'exprimer chez la drosophile, au niveau de la larve de drosophile, Il va se faire exprimer Paxosis à des endroits complètement différents de ceux de la tête, et il va faire construire des yeux sur les pattes, sur l'abdomen, sur le thorax. Enfin, c'est une manip qui avait fait un peu bondir tout le monde, parce que c'était absolument merveilleux. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris donc le gène Paxosis de mammifères. Et il l'a fait s'exprimer chez la drosophile, et il a eu la même chose. Ce qui montre bien que le gène Pax6 de mammifère marche aussi chez la drosophile. Vous voyez, c'est une très belle manip. Alors, ah oui, vous voulez...
Oui, je voulais dédicacer à cette question.
Oui, ça introduit la notion de ce qu'on appelle l'homologie profonde, c'est-à-dire, enfin, deep homology en anglais. On va le traduire en homologie profonde en français. Oui, c'est comme ça. Et donc l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, des structures qui ne sont pas homologues, c'est-à-dire qui ne sont pas héritées d'un ancêtre commun, il n'y a rien qui indique que l'œil d'une drosophile a quelque rapport avec l'œil, quand je vous ai montré l'architecture, qui n'a rien à voir. Donc, et tous les composants sont différents. Et donc ça montre quand même qu'il y a des mécanismes moléculaires de régulation génétique qui sont en amont et qui ont été réutilisés, en fait, plusieurs fois pour la fabrication d'yeux chez des organismes qui n'en avaient pas. Donc on dit que c'est un gène maître, bon c'est un peu c'est pas un terme bon, c'est master gene, voilà, c'est pareil, c'est toujours les traductions de l'anglais au français.
Oui.
Bon, il est maître de pas grand-chose, mais à part le truc c'est qu'il est surtout en amont d'une cascade de régulation, et à l'endroit où il s'exprime en fait, va se former un œil. Voilà. Donc, il va déterminer que les cellules, voilà. Ah ben après, ça va pas non plus permettre aussi de connecter ses yeux. Quand il y a, oui, dans les manips de Gehring, par exemple, les drosophiles ont des yeux sur les pattes, mais ça veut pas dire qu'elles voient avec ses yeux, hein, parce que c'est pas bien connecté avec le reste du système nerveux, etc. Mais ça permet de déclencher toute la cascade en aval qui va faire jusqu'à la formation d'un œil complet, quoi.
Mais alors comment expliquer justement les cas de convergence évolutive, par exemple, entre les yeux camérulaires, l'œil simple des vertébrés et de certains céphalopodes, alors que le patrimoine génétique des mollusques et des vertébrés est très différent?
Alors là, très différent. En fait, quand on regarde le génome, il y a à peu près le même nombre de gènes, et en fait, il y en a beaucoup qui sont communs, hein, il y a beaucoup de choses communes. Alors effectivement, ce qu'on voit ici, c'est que vraiment c'est un très bel exemple, parce que finalement chez les calmars et les poulpes, hein, il y a un œil donc avec une cornée en dessous, un cristallin, une rétine qui contient des cellules donc photosensibles avec la lumière qui est focalisée donc sur ces cellules pour faire une image très très précise. Il y a aussi un iris qui permet d'ouvrir et fermer la quantité de lumière. Donc vraiment, ce sont des yeux qui se ressemblent énormément. De façon d'architecture générale et de fonctionnement. Mais comment la lumière, elle est réfractée et renvoyée sur elle. Tout ça, ça se ressemble beaucoup. Mais en fait, quand on regarde les composants de toutes ces parties, ben, tout est différent. Par exemple, le cristallin, ce ne sont pas les mêmes protéines qui servent à rendre le cristallin transparent. La cornée, elle n'est pas formée de la même façon. Elle n'a pas la même origine embryonnaire. La rétine non plus, d'ailleurs. Elle n'a pas la même origine embryonnaire. Parce que nous, notre œil, en fait, c'est un diverticule du cerveau. Alors que chez les céphalopodes, c'est pas du tout comme ça que ça se forme. Donc en fait, on converge massivement des choses qui se ressemblent. On considère que c'est lié au fait que, à nouveau, il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire un œil efficace et un œil très efficace. Donc on converge toujours vers la même solution. On trouve même chez certains escargots, ouais, carnivores. Le murex, par exemple, il y a un petit œil donc qui a une lentille très qui focalise bien la lumière, etc. On le trouve, je sais pas, les araignées aussi. Il y a des araignées. Alors là, c'est assez étonnant. Pour préparer cette émission, j'ai relu un peu, et il est possible en fait que les araignées, faisant partie d'un groupe qui ont tous un œil composé, ça soit un œil composé qui a réduit le nombre de facettes. Jusqu'à très peu, jusqu'à former un œil unique. Donc ce serait en fait une convergence évolutive aussi, en plus à partir d'un œil composé. Donc là, ce serait assez étonnant.
Hervé Le Gulliver.
Pour enfoncer encore plus le clou, il n'y a pas 36 solutions. C'est les lois de la physique. Il n'y a pas 36 solutions. Regardez, les humains, quand ils ont voulu faire un appareil photo, eh ben ils ont fait la même chose. Il n'y a pas 36 solutions. Et donc, En fait, comme vous êtes pris par ces lois de la physique, bah, vous faites avec les matériaux, entre guillemets, que vous avez, c'est-à-dire les cellules que vous avez. Et donc, vous avez le même plan, j'allais dire, en schématisant à l'extrême, entre un œil de poulpe ou de calmar, qui ont une vision assez étonnante, et un œil de mammifère, grosso modo, vous voyez la même chose. Et avant que l'on ait une bonne biologie cellulaire et biologie moléculaire, eh bien, on pouvait se dire que c'était, entre guillemets, la même chose. Mais non, vu ce que Didier vient
d'expliquer. Et sûrement, en plus, on vit dans un monde très différent, parce que nos cerveaux sont très différents. Et en plus, en général, les céphalopodes ont une vision monochromatique, peut-être on reviendra là-dessus, mais par contre, ils voient la lumière polarisée. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est voir de la lumière polarisée. Avec notre œil de vertébré, c'est difficile d'imaginer ça. Mais ça leur permet effectivement de voir des contrastes, de trouver leur proie, etc. Mais on ne sait pas, c'est quand même quelque chose qui fonctionne de façon très différente.
Justement, quelle est la vision, les visions chromatiques selon les espèces? Restez à l'écoute, on y arrive.
Something else I'm dreaming of. Shut my eyes, pretend it's there. Keep me here, unaware. I would promise all I could. Think about it afterward. Humor me, just think it through. It's all I ever asked of you.
Bombay Bicycle Club, Your Eyes, en direct sur France Culture, car nous parlons de l'histoire évolutive d'un organe complexe, l'œil. Comment est-il apparu au cours de l'évolution? C'est une histoire qu'on raconte tout au long de cette heure avec nos deux invités du jour, Didier Cassane, professeur de biologie évolutive à l'Université Paris-Cité et co-directeur d'une équipe à l'Institut Diversité, Écologie et Évolution du Vivant, et Hervé Le Guyader, professeur honoraire de biologie évolutive à Sorbonne Université. Alors voilà, l'œil composé des arthropodes émergent parallèlement à l'œil caméra au début du Cambrien. Ça voudrait dire qu'autour de 500 millions d'années, tout le monde a à peu près ses yeux d'aujourd'hui. On vient d'évoquer les différences de perception chromatique. Que sait-on justement de ces différences, de ces nuances de perception dans le monde animal, Didier Cassane?
Alors, la plupart des animaux ont en fait une vision polychromatique. Ils voient en fait... quel est le principe? En fait, on va avoir des cellules photosensibles qui vont absorber la lumière à différents pics d'absorption. C'est-à-dire, il y en a par exemple qui vont absorber plutôt dans le bleu, d'autres plutôt dans le vert ou plutôt dans le jaune. Et en combinant l'information de ces différents récepteurs qui absorbent donc la lumière avec un maximum à différentes longueurs d'onde, en combinant cette information, on peut définir quel est le spectre lumineux qui vient d'une direction donnée. Donc si c'est plutôt rouge ou un mélange de couleurs, etc., ou un mélange de toutes les couleurs, donc c'est blanc, ou il n'y a rien qui arrive, et donc c'est noir. Et voilà, donc ça, c'est... Finalement, ça s'observe dans tous les... Là, c'est très fréquent. Surtout pour, évidemment, les animaux qui vivent dans un environnement diurne où il y a beaucoup de lumière. Parce qu'évidemment, s'il y a peu de lumière, Alors, ce qui va être important, ça va être surtout la sensibilité, c'est d'être capable de détecter la lumière, mais pas tellement les différentes fréquences. Et donc là, c'est pour ça que les animaux qui ont une vision nocturne ont en général une vision monochromatique ou dichromatique, parce que ce qui compte pour eux, c'est pas tellement de distinguer les couleurs, c'est de voir déjà quelque chose. Et par contre, quand il y a beaucoup, un grand flux de photons, alors là, on peut commencer à trier là-dedans et avoir une vision dichromatique, trichromatique comme nous, voire tétrachromatique, et voir beaucoup plus. Et il y a des espèces, il y a la mante de mer en particulier, qui est connue pour avoir tout un panel d'opsines différentes qui absorbent différentes longueurs d'onde. Mais j'ai lu récemment que finalement, elle distinguait peut-être pas tant de couleurs que ça. Donc, bon, peut-être il y a un peu un excès là.
Mais alors, comment on explique inutile. Justement la trichomie de l'espèce humaine, notre vision trichromatique, alors que l'immense majorité des mammifères est bichromique?
Ou alors, on parle du bottleneck, enfin du goulot d'étranglement chez les mammifères. En fait, les mammifères actuels descendent d'ancêtres qui ont vécu longtemps, probablement une vie nocturne. Donc, à partir eux-mêmes avaient des ancêtres qui avaient très probablement une vision tétrachromatique. En fait, ils avaient quatre types de récepteurs, et donc ils pouvaient résoudre pas mal les différentes couleurs. C'est ce qu'on observe toujours chez les oiseaux, la plupart des poissons, etc. Mais les mammifères étant passés par une vision nocturne, en fait, ils ont perdu deux récepteurs, parce que comme je vous ai dit, quand on vit dans le noir, on cherche plutôt la sensibilité plutôt que distinguer les couleurs. Et nous, les primates, quand on s'est réadapté à une vision diurne, à une vie diurne, en fait, eh bien, on avait besoin de mieux voir les couleurs. Et donc, on a rebricolé, en fait, un nouveau récepteur à partir des deux récepteurs qu'on avait. En fait, on en avait deux, et il y en a un qui s'est dupliqué pour faire un troisième récepteur. Donc, nous, en fait, on a une trichromatie, vision trichromatique relativement récente, de quelques dizaines de millions d'années, après être passé par une période où on avait une moins bonne vision des couleurs. Et avant, en fait, on avait une meilleure vision. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, en fonction de l'environnement, on va avoir besoin d'un type de vision ou d'un autre, en particulier par rapport à la couleur.
Hervé Le Guyadère, je vous voyais...
C'est bien, il
rappelle bien. Ok, je croyais que vous vouliez...
J'ai un bon professeur.
Ajouter d'autres... Parce que, en effet, sur cette différence entre cette vision diurne et nocturne, on voit que les modes de vie ont une grande influence, finalement, sur l'évolution de la vision. Je pense aussi à ces chouettes qui doivent voir la nuit, qui ont un œil en forme de cloche, si je ne m'abuse, pour pouvoir justement avoir un œil assez perçant dans un environnement nocturne.
Oui, et là on peut rajouter quelque chose d'autre aussi, c'est la vision du relief, c'est-à-dire que la chouette va avoir une face plate par rapport aux oiseaux, de telle manière qu'il pourra, voir aussi bien mesurer le relief, bien mesurer les distances. C'est-à-dire que, et en fait, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas assez insisté, il me semble, depuis le début. C'est que qui dit œil dit traitement par le cerveau. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que tout ce qui va pouvoir amener... je pense aux enfants actuellement qui ont l'habitude avec tous les écrans. Si on leur parle de pixels, eh bien, ils comprennent. Eh bien, tous ces pixels vont arriver au cerveau. Et au cerveau, on va pouvoir traiter pas mal de choses. Et en particulier, effectivement, tout ce qui provient de couleurs, mais aussi tout ce qui est différence entre les deux images de nos deux yeux. Faut pas oublier qu'on en a deux. La majorité des animaux ont un nombre pair d'yeux, et donc vont pouvoir faire ce genre de choses. Ceci dit, l'œil de la chouette, j'en sais pas trop plus.
Oui, il y a une petite histoire rigolote avec l'œil de la chouette, c'est donc effectivement, il faut imaginer que l'œil de la chouette, c'est comme un tube qu'on aurait en fait coupé à l'intérieur d'un œil sphérique de grande taille. Mais un œil sphérique de grande taille ne rentrerait pas dans la petite tête relativement petite d'une chouette. Donc en fait, il a été comme un tube qui a été extrait finalement d'un œil sphérique. Donc ça permet d'avoir une longue focale, donc d'avoir une vision très précise. Mais le prix de ça, ce qui est assez amusant, c'est que comme c'est un tube, il ne peut pas tourner dans l'orbite. Hein, et donc la chouette est obligée de tourner la tête pour voir sur le côté.
Voilà, alors après avoir parlé de la vision nocturne de la chouette, on va s'intéresser à la vision des méduses avec leur portage du jour. Voilà, la biodiversité nous montre une multitude de possibilités de vision et le cas des méduses présente un bon modèle d'étude pour comprendre comment cette faculté s'est adaptée au cours de l'évolution. On continue d'en parler avec vous. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Natacha.
Vous êtes allée au Médusarium de l'Aquarium de Paris pour aller observer les yeux de ces méduses, parfois très nombreux.
Oui, jusqu'à 24 pour les cuboméduses. Alors on parle plutôt de ropalies que d'yeux, hein. Des organes situés dans l'ombrelle à peine perceptibles à l'œil nu, mais qui révèlent des morphologies parfois similaires à nos yeux, fentes et cristallins pour focaliser la lumière et former des sensations. Car même si elles ne possèdent pas de système nerveux central, elles réagissent en fonction de l'intensité lumineuse. À l'Aquarium de Paris, Anaïs Courtet, responsable du laboratoire d'élevage des méduses, et Louis Charrier, médiateur scientifique, nous amène à observer ces espèces dans leur bassin.
C'est la deuxième collection au monde après le Japon. On va voir des méduses qui sont dans des bassins en forme de gélules, comme on peut le constater, ou en forme de tambour avec du courant en permanence et de la nourriture en continu. Une nourriture qu'on peut observer d'ailleurs en regardant de très très près. On dirait qu'il y a des sortes de petites poussières. C'est en fait des larves de crustacés minuscules.
En suspension dans l'eau.
Exactement. Bah, en fait, les méduses, en rentrant en percutant entre guillemets ces particules de nourriture, ces larves du coup d'Artemia, et ben en fait elles vont se nourrir toute la journée. Et ça va être directement corrélé à leur bonne croissance d'avoir une bonne quantité de nourriture. Donc dans des bassins qui sont assez graphiques avec une lumière qui est zénitale comme ça, et ça va souvent donner des très jolies photos quand on aime la photo.
Oui c'est ça, alors ici on a un total de 30 bassins et on héberge une centaine d'espèces au laboratoire qu'on présente du coup par roulement dans les 30 bassins. Et ces espèces du coup elles sont réparties parmi les grandes familles de méduses, donc les hydroméduses, les cuboméduses et les siphoméduses qui sont les méduses vraies.
Vous avez cité les cuboméduses et il s'agit d'un groupe qui possède des yeux ou alors des paires d'yeux ou même beaucoup d'yeux différents. Est-ce que vous pourriez un peu décrire ce cas d'espèce ?
Alors oui, chez les cuboméduses, on a les yeux, ou en tout cas les semblants d'yeux les plus élevés, les plus évolués pardon, du monde des méduses. Chez certaines espèces, on a par exemple des cuboméduses qui sont capables de voir des variations d'intensité lumineuse, donc de se diriger en fonction de l'intensité lumineuse et pas juste jour-nuit. Et on a aussi une espèce de cuboméduse qui est capable d'aller jusqu'à reconnaître des couleurs.
Au niveau anatomique, comment ça se présente ?
Alors au niveau anatomique, ces yeux, ils se situent sur le tour de l'ombrelle, donc vraiment sur la marge qu'on voit sur tout le tour de la méduse, là où s'implantent en fait les tentacules. Et ça va être sous forme... Alors à l'œil nu, on va voir juste un petit point noir la plupart du temps. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une ropalie. Donc une ropalie, c'est un ensemble d'organes des sens. Et dans cette ropalie, on va avoir un semblant d'oreille interne qui va fonctionner vraiment comme l'oreille interne humaine pour savoir si la méduse se trouve à l'endroit ou à l'envers dans la colonne d'eau. Et on va avoir aussi dans ces ropalies ces fameux yeux qui sont en fait des ocelles qui vont être capables de capter, voilà, entre autres, les variations de lumière.
Le corps des méduses, en particulier les tentacules, est recouvert de cellules urticantes, les cnidocytes.
Alors, les méduses, elles vont servir de leurs yeux, en particulier pour savoir quel moment de la journée on est en fonction de l'intensité lumineuse, s'il fait jour, s'il fait nuit, et pour les plus évolués, à quel moment de la journée on en est. Et ça va les aider en fait à se diriger dans la colonne d'eau pour aller se nourrir.
Mais ces mécanismes, ils sont donc sensoriels, mais un peu spontanés dans le sens où ils n'ont pas de système nerveux à proprement parler, central.
C'est ça, alors les méduses, elles ont quand même un système nerveux, mais qui est en fait diffus. Elles n'ont pas de système nerveux central, donc elles n'ont pas en fait de cerveau, comme chez l'homme, qui va être capable de traiter l'information qui est captée par les organes des sens. Donc c'est le lien en fait entre l'organe des sens et le comportement de la méduse va se faire uniquement par des signaux qui vont naviguer entre les organes des sens et les muscles par des semblants de nerfs, mais il n'y a pas entre les deux un cerveau qui va dire bah là il fait jour, il faut que tu ailles vers la surface.
Oui, il n'y a pas de contrôle-commande, c'est plutôt mécanique.
C'est ça exactement, c'est très mécanique, c'est de l'ordre du réflexe en fait, il n'y a pas du tout de commande, de centre de commande chez la méduse.
Et alors ces fameuses ropalies, on peut les observer sur cette espèce-là qui est en face de nous.
Oui, les ropalies.
On s'approcher peut-être pour les voir. C'est une sorte de grappe, c'est ça?
En fait, vous voyez, sur tout le tour de l'ombrelle, il y a vraiment des petits points blancs à intervalles réguliers qui ont l'air très lumineux, en fait.
Alors, ce qu'on appelle l'ombrelle, c'est le chapeau.
Voilà, c'est le chapeau. Voilà, l'ombrelle, c'est vraiment le chapeau, la tête, entre guillemets, de la méduse. Et voilà, on a ces petits points-là blancs, très lumineux, qui sont en fait les ropalies, donc les...
C'est vraiment tout petit.
C'est vraiment tout petit. Après, quand on regarde d'un peu plus près avec un microscope ou une loupe binoculaire, par exemple, on peut distinguer un peu plus ce qui se passe à l'intérieur.
Dans ces ropalies, il y a donc des cellules sensibles à la lumière, mais aussi des sortes de cristallins, des lentilles, qui permettent d'avoir une vision plus fine peut-être de l'environnement.
Oui, alors c'est le cas chez certaines espèces qui font partie de la famille soit des syphoméduses, soit des cuboméduses. On va avoir des ocelles qui sont un peu plus évoluées et qui vont là être capables de capter des variations de lumière. Et effectivement, on a la présence d'une structure semblable au cristallin, notamment chez les cuboméduses.
On le voit bien chez les méduses lunes, en général, on voit très très bien ces petites ropalies dont parlait Anaïs, qui effectivement peuvent se voir à l'œil nu, parce qu'avec la lumière zénitale dont je parlais tout à l'heure, on va les voir soit briller un peu plus, soit au contraire, par contraste, être plus foncé. Donc ici, on est devant du coup les méduses lunes. Alors les méduses lunes, elles sont intéressantes parce que notamment, on va pouvoir voir par transparence leur système digestif qui va des fois se colorer quand la méduse va consommer beaucoup de nourriture. C'est une sorte de petit trèfle qu'on peut voir par transparence et des fois on peut avoir un peu plus de petites boucles selon les espèces et selon les individus aussi. Et on peut du coup les voir en fait assez facilement, donc ces petits points un peu plus clairs. Ça va être comme s'il y avait une petite encoche vraiment sur le pourtour de l'ombrelle et c'est à cet endroit-là que vont être du coup les ropalies. Et donc c'est vraiment ces tout petits ces rassemblements du coup d'organes avec effectivement un système qui permet d'agir grâce à la gravité pour que la méduse puisse savoir si elle est à l'endroit ou à l'envers. Voilà, c'est un peu comme notre œil interne. Il y a une sorte de petite pierre en fait qui est dans une cavité et cette cavité souvent il y a des petits cils qui vont réagir en fonction de où est-ce que la pierre se dépose et c'est comme ça que la méduse va pouvoir analyser ça entre guillemets. Je dis analyser. Comme on l'a dit, il n'y a pas de système nerveux central à proprement parler, c'est assez diffus. Mais la méduse, grâce à ça, elle peut aussi quand même s'orienter et en tout cas se localiser plus ou moins.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo. C'est à retrouver sur votre application préférée, l'appli Radio France bien sûr. Hervé Le Guyader, une réaction à l'écoute de ce reportage et à la découverte de ces méduses?
Les cuboméduses, c'est des animaux extraordinaires. Effectivement, comme ça a été bien expliqué, ces fameuses ropalies, donc c'est un organe photorécepteur, donc avec lentilles quand même. Bon, ça marche moins bien que notre œil, mais quand même c'est déjà pas mal. Et puis donc cette sensibilité à la gravité qui lui permet de bien se situer. Mais il faut généraliser parce que c'est, si vous voulez, la cuboméduse, les cuboméduses, ce sont des méduses assez étonnantes. Par exemple, ce sont des méduses qui ont une danse nuptiale. Donc vous voyez, il y a quand même, on dit qu'il n'y a pas de traitement de signal. Je pense qu'on n'en sait pas beaucoup sur les cuboméduses, mais qu'il y a plus que ce qu'on imagine que simple réflexe. Et d'autre part, c'est quand même des méduses qui sont donc ce sont des prédateurs, hein, mais qui ont une vitesse de nage absolument extraordinaire. Je me souviens d'avoir vérifié les méduses que l'on va trouver, les cubomédises qu'on va retrouver dans le sud du Japon, nagent plus vite que le champion du monde du 100 mètres nage libre. C'est quand même pas mal. Et donc, vous voyez que ce sont des animaux absolument étonnants. Et effectivement, ils ont cette vision qui est...
Et alors d'autres animaux étonnants, puisque là on parle de ces espèces qui sont dotées de ces capacités, de cet organe de la vision, mais on a aussi ceux qui n'ont pas d'yeux et puis même ceux qui les ont perdus, Didier Cassan. Et c'est d'ailleurs les animaux que vous étudiez.
Oui, alors juste avant, je voudrais quand même rajouter une petite chose d'un point de vue général sur l'évolution. On peut donner l'impression quand même qu'au cours de l'évolution, il y a une tendance vers la complexification et faire des organes très complexes. Et donc ça, c'est un peu une théorie qu'on pourrait dire lamarckienne, hein, c'est qu'il y a une tendance inhérente au vivant à se complexifier et à avoir des yeux de plus en plus complexes. Alors en fait, ça, c'est pas la réalité. Il y a beaucoup d'organismes qui ont des yeux très simples et ça leur suffit. Par exemple, une patelle, hein, qui est un petit gastéropode brouteur, eh bien, lui, elle va avoir des petits yeux très simples qui lui permettent juste de voir des différences d'ombrage, mais pour son mode de vie, c'est suffisant. Et comme il n'y a pas de tendance nécessaire vers la complexification, un œil plus complexe qui n'apporterait rien d'un point de vue adaptatif, eh bien, ne va pas se développer. Donc, c'est pour ça qu'il faut imaginer que parfois, on va vers une complexification. C'est souvent associé à aussi des comportements plus complexes. C'est pour ça qu'on voit ça chez les céphalopodes, chez les vertébrés, chez certains insectes. Mais ce n'est pas toujours vrai. On peut imaginer, il y a des animaux qui sont restés pendant des centaines de millions d'années avec des yeux très simples et ça leur suffit. Alors effectivement, moi je m'intéresse par ailleurs à qu'est-ce qui se passe. Alors on parle toujours, évidemment, c'est la sélection naturelle. Hein. C'est, si on a un œil qui marche un peu mieux, eh bien on va mieux survivre, peut-être mieux se reproduire et ça va se propager dans la population. Et petit à petit, ça peut se complexifier pour s'améliorer. Alors bon, ça c'est une théorie. Alors maintenant on peut se dire bon, ok, donc ça c'est lié au fait que quand on a besoin de voir, eh bien on va petit à petit développer des yeux complexes. Donc évidemment, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? La méthode pour tester ça, c'est de se mettre dans des conditions où il n'y a plus de lumière.
Les cavernes.
Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc regarder, s'intéresser aux animaux cavernicoles. Et donc ça, c'est les animaux. Donc moi, je m'intéresse en particulier aux poissons cavernicoles. La plupart des poissons cavernicoles qui sont dans les grottes depuis longtemps et complètement inféodés au milieu cavernicole, c'est-à-dire qu'ils ne voient jamais de lumière, eh bien, en fait, la plupart de ces poissons sont aveugles, ont perdu leurs yeux. En fait, ils commencent à se développer. Peut-être on pourra en parler au cours de leur embryologie. Ils commencent à se développer, puis ils dégénèrent et ils disparaissent. On trouve ça aussi chez le protée. Il y a des salamandres aussi qui vivent dans les grottes et qui ont perdu leurs yeux. Et ça, comment on explique ça? Alors, Darwin, si on revient sur Darwin, avait... Et deux hypothèses. D'abord, bon, je pense qu'il ne devait pas trop y croire, mais enfin, je ne sais pas, je n'ai pas trop discuté avec Darwin, mais il dit que ça peut être la sélection naturelle, puisqu'il essaye d'expliquer quand même les choses par la sélection naturelle. Il dit, par exemple, vous voyez une taupe, si avec ses yeux, elle va se frotter sur la terre, tout ça, il peut y avoir des inflammations. Il avait observé ça, il va dire, donc, si on perd ses yeux, eh bien, ça va éviter des maladies, des choses comme ça. Et puis, surtout, il utilise une théorie qui est maintenant... obsolète, c'est l'idée du non-usage, c'est-à-dire comme ces poissons-là n'utilisent pas leurs yeux, ils se développent moins et de génération en génération, ils dégénèrent. Donc le non-usage, en fait, effectivement, on a repris cette idée-là, mais c'est pas le non-usage en soi, c'est-à-dire que si un poisson, il ne mute pas, ses descendants, il développera des yeux, même si il vit dans le noir. On le fait d'ailleurs en laboratoire, on peut élever des poissons qui ont des yeux dans le noir, et bien leurs alevins ont des petits yeux. Et ça, il n'y a pas de problème.
Voilà, et l'hypothèse est que malheureusement, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on est arrivé à la fin de cette discussion. Mais pour conclure, voilà, il semblerait que la formation des yeux par Paxis chez les vertébrés soit une étape primordiale de la formation du cerveau. Merci, désolé pour se passer vite. Merci pour cette histoire de l'œil. Comme chaque jour, là, on retrouve tout de suite Alexandra Delbeau et on retrouve la chronique avec science avec cette semaine une série spéciale « Comment se passer ?» de l'expérimentation animale.
Cette semaine, on s'intéresse à l'expérimentation animale et comment s'en passer avec aujourd'hui comment la souris est-elle devenue le modèle par excellence. C'est l'animal le plus utilisé en laboratoire. Les souris représentent à elles seules 68% des animaux sélectionnés pour l'expérimentation animale, loin devant les lapins, les rats, les poules ou encore les poissons zèbres. Mais pour quelles raisons les scientifiques choisissent-ils davantage ces animaux que d'autres? Pour le comprendre, il faut revenir au début de l'expérimentation l'exploitation animale et au concept même de modèle animal. Jean-Gaël Barbara est directeur de recherche CNRS, historien des sciences au laboratoire neurosciences Paris-Seine et chercheur associé au laboratoire Sphère.
Le concept de modèle animal, on peut dire, il n'est pas immédiat. Si vous voulez, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les physiologistes, les anatomistes vont utiliser des animaux, mais ils les utilisent un petit peu au bonheur de la chance. Ils vont choisir un animal plutôt qu'un autre, mais pour des raisons pratiques. C'est seulement, si vous voulez, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, et puis beaucoup plus au XXe siècle, qu'on va avoir l'idée de choisir un animal en fonction d'une question scientifique posée. Et ça, ça va se développer tout au long du XXe siècle. Et par exemple, pour les neurosciences des années 50, par exemple, on a un retour aux modèles animaux invertébrés. Pour ce qui est maintenant des rongeurs, c'est quelque chose qui est apparu très progressivement. On peut dire qu'au début du XXe siècle, on commence à utiliser des rats et des souris, plutôt des rats parce que c'est un peu plus gros quand même, pour leur capacité à résoudre des problèmes, à faire des labyrinthes. Et donc, ces animaux vont devenir des modèles d'apprentissage.
La physiologie viendra plus tard parce qu'on ne disposait pas encore de techniques suffisamment fines. Plus un animal est petit, plus il faut raffiner les mesures et miniaturiser les outils. C'est pour cela qu'au départ, les scientifiques se sont tournés vers des animaux plus gros, chiens, lapins ou rats, car ils sont plus simples à manipuler et à observer. Ce qui va marquer finalement une préférence pour la souris, c'est la génétique. La très grande majorité des gènes humains ont un équivalent chez la souris et surtout, on peut manipuler son génome et donc créer des modèles de pathologie humaine chez ces animaux.
On va étudier des gènes, des mutations chez des souris, comme on l'a fait chez la drosophile aussi dans les années 30. On peut faire un peu de physiologie chez la drosophile, mais c'est beaucoup plus compliqué. Le cerveau d'une drosophile, par exemple, est extrêmement petit. Donc, si vous voulez, entre la drosophile et le rat, on choisit la souris, puisqu'elle est assez grosse quand même pour faire de la physiologie, et on peut faire de la génétique et des sélections de mutants. Ensuite, c'est vrai que dans les années 90, on voit apparaître les souris knock-out et toute la biotechnologie. Et bien sûr, c'est ce vecteur de progrès qui va nous amener jusqu'à l'époque actuelle avec les outils, bien sûr, pour développer des animaux transgéniques qui sont très adaptés à certaines questions scientifiques, qui sont faits sur mesure pour certaines questions scientifiques.
À présent, la technologie des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 permet d'obtenir de nouveaux modèles murins en un temps record. Il ne s'agit pas seulement d'en produire, maintenir ces lignées transgéniques mobilise énormément d'animaux de laboratoire. C'est l'une des premières sources d'utilisation, juste derrière la recherche fondamentale et devant le développement de médicaments, qui est pourtant le motif qu'on cite le plus facilement. Le recours systématique à cet animal a bien sûr ses limites, nous ne sommes pas des souris, et cela explique en partie pourquoi de très nombreuses recherches échoue à passer en stade clinique. On entend souvent dire que plus de 90% des médicaments testés avec succès chez les animaux ne seront jamais commercialisés. Ce chiffre doit être un petit peu nuancé parce qu'il comptabilise dans l'eau des tests in vitro, donc cellulaires, et pas seulement sur les animaux, mais cela reflète tout de même une certaine réalité. Il y a un autre biais dont on parle beaucoup moins, l'usage privilégié des souris mâles. On a longtemps cru, à tort, que les cycles hormonaux des femelles rendaient les résultats plus variable et donc moins fiable. Ce présupposé est aujourd'hui largement remis en question. Depuis une dizaine d'années, les financeurs et les revues scientifiques demandent à avoir la parité dans les cohortes pour éliminer ce biais des recherches.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, à la réalisation, c'était Olivier Bétard, et à la technique aujourd'hui, Timothée Hubert, et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.